Cet après-midi, il est 4h05, je vais parler jusqu'à à peu près moins 20, moins le quart, et le reste du temps, vos questions, échanges, débats, ce que vous voulez, mais il faut que ça fuse. Vous n'êtes pas là pour écouter seulement, il faut qu'à l'écoute de ce qui sera dit, vous réfléchissiez, ou pour ceux qui ne le font pas, que vous appreniez à réfléchir. C'est important de réfléchir dans la vie. Parce que nous allons nous mettre sur un plan de vision divine, c'est pas une vision humaine, c'est la vision divine, à travers la parole, la Bible, je ne dis même pas vision biblique, la Bible n'est que l'interprète, n'est que l'élément qui consigne cette vision. C'est Dieu qui a cette vision pour la création, et il nous la soumet dans sa parole. Alors déjà, j'aimerais vous avertir que nous avons tous un carcan autour du cou. Ah, de quel carcan est-ce que je parle? C'est notre héritage culturel. Nous sommes nés dans une civilisation de l'Europe de l'Ouest, où on nous a appris, et même pas forcément après à l'école, déjà génétiquement nous sommes faits pour ça, une formation selon laquelle nous voulons comprendre d'abord avant d'accepter. Nous voulons comprendre, et quand je dis comprendre, c'est cérébral. Alors vous vous rendez compte dans quel problème ça nous met. Il y a des gens qui sont doués pour comprendre, d'autres qui le sont moins. Il y a qui sont formés pour comprendre à travers des études poussées, d'autres qui le sont moins, qui auraient pu, mais n'ont pas eu les moyens. Alors, ce n'est pas juste. Si je vous présentais cet après-midi une étude où je fasse appel à votre faculté de comprendre, il y aurait des gens privilégiés et d'autres qui ne le seraient pas. Ce serait déjà de l'injustice. La Bible n'a pas été écrite pour être comprise d'abord. Rappelez-vous ça toujours. La Bible, c'est la parole d'un Dieu vivant. Beaucoup d'écrivains ont écrit des millions de livres, ils sont morts. Ils ont laissé une pensée. Cette parole-là est la parole d'un Dieu qui vit éternellement. De ce fait, elle s'adresse à nous au-delà de notre capacité de comprendre. Oubliez pour un moment que vous avez un cerveau, allez au-delà, vous avez un cœur. C'est là que ça compte. Parce que la Bible va vous parler ce matin, bien sûr à travers mes paroles, bien sûr vous ne pourrez pas vous empêcher d'une part d'écouter et de réfléchir. Je ne vous demande pas de fermer les écoutilles et dire « je réfléchis pas ». D'ailleurs, ce serait en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir la Bible comme une personne, car la parole vivante de Dieu, c'est Christ. Déjà, je choque peut-être certains en disant « mais moi, j'ai un livre, des pages, des caractères d'imprimerie. On me dit que c'est Christ, mais je vois pas de personne, moi je vois un livre. » Fichu rationalisme, voilà où il nous a amenés. Vous voyez, le pouvoir de la raison est un don de Dieu, et à travers des siècles de culture, depuis la Renaissance, on a complètement déformé ça, on a fait un dieu de la puissance de la raison. Bien sûr que ce n'est pas une personne, avoir un livre. Mais le problème, ce n'est pas de voir avec les yeux et de comprendre et puis dire ça y est. Le problème, c'est de croire. La parole de Dieu s'adresse à nous cet après-midi comme de tout temps, à travers une personne. Jésus est présent au milieu de nous. C'est lui qui veut nous parler. Il va se servir d'un misérable être humain que je suis, tout comme vous. Vous avez une mort physique un jour ou l'autre. Mais à l'intérieur de moi, il y a, et de vous, il y a sa marque, et nous verrons ça à la troisième session. Il y a une marque qui est appelée à être plus qu'une marque de fabrique. Il y a cette image de Christ qui doit devenir réalité. Et c'est au nom de cette réalité que Christ parle à vous à travers moi. C'est beaucoup plus que des paroles que vous entendez en ce moment. C'est beaucoup plus que des sons. C'est beaucoup plus que des pensées que vous avez. C'est Christ qui veut parler à votre cœur et éclairer en vous. Ça viendra peut-être pas maintenant. Vous allez peut-être sortir de cette session. Vous avez l'impression, oui, oh là là, on a dit des choses extraordinaires, mais... Pour moi, c'est tout juste, si je peux comprendre, il plane haut, le frère, hein. Oh là là, il fait de l'altitude. Voilà, mais ça, oubliez ça. Hein. Ça va faire son chemin. parce que vous êtes en position d'accueil. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir la parole du Christ vivant cet après-midi? C'est ça qui compte. Alors vous emporterez quelque chose qui fera son chemin en vous. Ça va peut-être mettre une heure, une journée, des semaines, une année, peu importe, le temps de Dieu c'est le meilleur. S'il va plus lentement avec certains et plus vite avec d'autres, c'est son affaire et pas la mienne, ni la vôtre. Parce qu'il sait exactement le temps qu'il faut pour que ça mûrisse. Mais parce que vous avez été fait à l'image de Dieu en Christ, lui il est l'image visible du Dieu invisible, vous êtes déjà, excusez-moi le mot, récipiendaire, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, vous êtes déjà les vases, prêts à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous avant que le monde ne fût. Il y a des milliers et des milliers d'années, il vous voyait déjà, psaume 139, il avait déjà prêt pour vous les paroles que vous allez entendre cet après-midi. Au-delà des paroles humaines, il a de près pour vous quelque chose d'extrêmement vivant qui va vous enrichir. Et je vous garantis que si la Bible avait été lue comme ça, depuis des siècles, on n'en serait pas là où on en est au point de vue christianisme. Elle a trop été lue d'une façon cérébrale. On prend un texte, on commence à voir l'exégèse, la synthèse, l'analyse, on le décortique et on n'en sort rien du tout. Alors on va dans les facultés, on va dans les instituts, on développe ça, on macère ça à travers une puissance cérébrale, et après on vous renvoie des gens qui vous disent « Voilà, vous allez croire comme ça, si vous ne croyez pas, on vous met à la porte. » Dans le temps, on vous mettait sur un bûcher. Voilà ce que ça a produit. La parole de Dieu, ce n'est pas ça. C'est un texte qui me surprend, à la limite est incompréhensible, mais ma foi saute par-dessus le mur et me dit « Si c'est mon Dieu qui me parle, même si je ne comprends rien, il y a un trésor caché. Merci Seigneur pour ce trésor. » Eh bien, nous allons baisser nos fronts et prier. Seigneur, nous te bénissons, parce que cet après-midi encore, tu veux nous enrichir. Tu as préparé dans cette parole, au-delà de notre compréhension, une richesse incommensurable. Seigneur, c'est toi qui t'ouvres à nous à travers cette parole. Nous voulons t'accueillir. Seigneur, nous nous soumettons à la puissance de ta croix, à la puissance du sang versé sur le calvaire, pour abaisser toute barrière de la chair qui s'oppose. Nos préjugés intellectuels, notre complexe d'infériorité parce que nous avons peur de ne pas comprendre. Tout cela, nous le soumettons à la puissance de la croix maintenant. Et nous recevons ta parole. Merci Seigneur. Amen. Alors la lecture est courte. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je vous rappelle la question qui nous préoccupe derrière non seulement ce verset, il y en a beaucoup, il y a des milliers de questions qui viennent à ce texte. Dans quel but Dieu créait-il? Il aurait pu se passer de créer. Il était libre après tout, il était Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a créé? Hein? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. En quoi notre vie quotidienne, il faut redescendre sur terre, est-elle influencée par la connaissance du sens de la création? Répondre à la première question, dans quel but crée-t-il, amène une deuxième question, mais moi en tant qu'ouvrier chez Renault ou peu importe, qu'est-ce que ça sert, à quoi ça sert dans ma vie de savoir ça? C'est important. Il faut toujours vivre dans le contexte quotidien. Alors nous allons d'abord voir le texte et ensuite nous essaierons de répondre à cette question. Et vos questions viendront par la suite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, j'ai un petit péché mignon, si j'ose dire. Je ne crois pas les traducteurs. Ils ont tellement escamoté la Bible, au souvent mû des meilleures intentions, avec des connaissances réduites de l'époque, au fort de diplômes de théologie. Bien sûr, ils ont sorti un livre qui nous a aidés. Pensez aux nombreuses heures qu'on a passées à méditer, même une version seconde. Grâce soit rendue à Dieu, Dieu ne se limite pas par un traducteur. Mais quand on recherche le fond des choses, on remonte aux sources. Et la langue hébreu est d'une richesse. Pas seulement la langue hébreu, mais tout ce que la tradition hébreu, vous savez, les écoles de rabbins, il y en a eu des milliers, étalées sur des milliers d'années. Ils ont médité, conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu marchait avec le peuple d'Israël. Et sont venus des écrits de toutes sortes que nous, occidentaux, ont eu tendance à rejeter. Ça ne correspondait pas au canon de l'Église. Combien de grimaces et de rictus n'ai-je produit sur les visages de gens au par ailleurs extrêmement décents, des gens cultivés, formés théologiquement, parce que j'osais me référer à ce que la tradition hébreu, dans la marche avec l'esprit, tout à fait dans les millénaires de l'histoire juive, avait amené. Ça ne correspondait pas au dogme de l'Église, alors, je parle des églises traditionnelles, donc il m'écoutait avec beaucoup de méfiance. Eh bien, ce verset est déjà mal traduit. Au commencement, ce n'est pas le mot. Si on voulait vraiment traduire le mot juif, on devrait écrire « au commencement de, virgule, Dieu créa les cieux et la terre ». Au commencement de. Ah, ça c'est intéressant. Entre parenthèses, pour ceux qui ont fait de la grammaire, ça ne va pas. Parce qu'il manque le complément de nom. Au commencement de quoi? Eh bien, c'est précisément la question. Si vous voulez, la langue hébreu aurait accepté un mot dans le genre « au commencement de ». Précisément parce que ça soulève une question et ça invite le lecteur à faire des recherches. Vous voyez comment opère la langue hébreu? Nous, on est trop dogmatique avec notre langue, absolument passée par le filtre de l'Académie des langues, qui rétablit l'équilibre dans les moindres détails, au point de tuer. La lettre tue. Au commencement de quoi? Alors, regardons ce mot hébreu, au commencement de. C'est le fameux Bereshit. B, plus loin, Reshit. Eh bien, on va s'attarder sur ce mot. Car dedans, c'est plus qu'un mot. Vous voyez, nous, on a l'habitude, vous avez tous plus ou moins un Larousse chez vous, quand un mot que vous ne comprenez pas, vous sortez le Larousse, et tac, ça vous donne une définition, terminée. C'est presque la méthode informatique, ordinateur. La langue hébreu est beaucoup plus riche, elle va beaucoup plus loin. Non seulement elle décrit quelque chose, car la définition d'un mot, c'est de vous donner une définition, valable dans le temps où vous la lisez, mais elle vous donne un éclairage sur ce qui va venir. En quelque sorte, elle projette une image loin dans le temps. Supposez que je vous dise prototype nouveau de moteur, d'automobile. Vous voyez, 4-5 mots. Déjà, ça vous fait réfléchir. Vous savez ce qu'est un prototype, un moteur, une automobile. Vous savez que ça veut dire nouveau. Donc, pour vous, les mots sont clairs. Mais l'ensemble, prototype nouveau de moteur automobile, je suis sûr que ça vous fait dire, je parle à ces messieurs, parce que les femmes s'intéressent peut-être moins aux voitures, peut-être de machines à laver, je devrais dire, bon, ça fait rien. Ça vous fait dire, ah, prototype nouveau. Prototype, c'est avant le modèle. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais où est-ce que... Oh, il y a peut-être des caractéristiques internes. Vous voyez, tout de suite, on réfléchit, on se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va amener de plus ce moteur? Vous voyez, déjà, on se projette en avant au-delà du mot. Eh bien, c'est ça la langue hébreu. Le mot Bereshit nous projette jusqu'à la fin de l'histoire. Ça va loin. De Genèse 1.1, on est projeté jusqu'à la fin des temps. Bereshit. Ouais. Maintenant dans le détail. Tout d'abord, c'est un mot double. Il y a B et Reshit. B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Aleph est le premier. Bet ou Beth ou B est la deuxième. Un peu comme en français A et B. Et vous savez, et nous reviendrons assez souvent sur cet aspect-là, chaque lettre hébreu est rattachée à un chiffre. On appelle ça le poids de la lettre. Et alors c'est facile pour trouver le chiffre, il suffit de prendre l'ordre des caractères de l'alphabet, de donner 1 à Aleph, 2 à Beth, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'alphabet. Plus on monte, plus on ajoute 1 à chaque fois. Eh bien Beth, donc, c'est 2. Jusqu'ici... Bon, intéressant, oui, mais voilà ce qu'ils disent. Ils disent, tout dans le monde qui va apparaître, puisque Dieu créa les cieux et la terre, le monde visible et invisible, nous reviendrons tout à l'heure sur créa les cieux et la terre, tout aura un peu comme le signe de derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je parle de lumière, vous pensez immédiatement à quoi? À la lumière, le solaire peut-être, etc. Mais certains penseront à l'antithèse, à l'opposé de la lumière, l'obscurité. Si je tiens debout sur l'estrade et je ne passe pas au travers, vous ne savez pas pourquoi? Je ne sais pas, vous êtes assis là, vous ne bougez pas, mais heureusement pour vous que, à la force que votre poids applique sur la chaise, à son tour, exerce une force inverse. qui est la réaction à l'action que vous imposez. Si elle n'existait pas, cette réaction, vous passeriez au travers. S'il était plus forte que l'action, vous seriez éjecté vers le haut. C'est ça le principe du siège éjectable dans les avions. J'étais pilote, je sais ce que c'est. Donc, s'il y a action, il y a réaction. S'il y a lumière, il y a obscurité. S'il y a bien, il y a mal. S'il y a amour, il y a haine. S'il y a électron, il y a positron, pour ceux qui font de la physique. Peu importe, mais partout dans l'univers, il y a une contrepartie. S'il y a vie, il y a mort. S'il y a temps, il y a éternité. Tout dans la vie pourrait être vu en forme de contrepartie. Et la vie, telle que nous la vivons, n'a de sens que lorsque les deux sont là. La chose et sa contrepartie. S'il y avait l'action sans la réaction, le monde serait bouleversé. S'il y avait lumière sans l'obscurité, il n'y aurait pas de nuit pour se reposer. On pourrait aller très loin. On pourrait écrire des livres sur ce thème. C'est ça le chiffre 2. Déjà, la parole de Dieu nous dit que tout aura ce recto verso. Voilà la formule. Prenez une feuille de papier, c'est une unité cette feuille. Eh bien pourtant, elle a ce recto verso. La feuille de papier n'aurait aucun sens. Essayez d'imaginer une feuille de papier avec un recto sans son verso. Mais c'est dingue. Ça ne veut rien dire du tout. Ou le verso sans le recto. Donc la réalité de la feuille ne tient que parce qu'elle est recto et verso en même temps. Le signe 2 également. C'est ça. Bête. Tout commence par le chiffre 2. Alors, des gens très malins dans les écoles rabbiniques ont dit « Mais pourquoi ça ne commence pas par le chiffre 1 alors ?» Alors vient la réponse des pères rabbiniques. On les appelle les pères, mais enfin ce sont des rabbins. Parce que 1 appartient à Dieu. Dieu seul est l'unité. Père, Fils et Saint-Esprit, n'entrons pas dans le dogme de la Trinité. C'est ce qui a une des forces qui vont briser le christianisme. L'homme a voulu réfléchir sur Dieu. Au lieu de vivre comme issu du Père, vivant en Christ, animé par l'Esprit. Au lieu de vivre cela, il a voulu réfléchir sur ces trois dans un. Et n'ont jamais pu résoudre l'équation 3 égale 1. Voilà ce que c'est de réfléchir comme réalité ultime, comme motivation suprême. Il fallait aller au-delà. Et c'est l'Église de l'Est, l'Église de derrière le rideau de fer, qui nous relance la balle il y a 20 ans par ce manifeste des Églises. Qu'avez-vous fait, vous, gens de l'Ouest? Pourquoi avez-vous perdu des siècles à réfléchir sur Dieu au lieu de vivre en Dieu? Car Dieu n'est pas fait pour qu'on réfléchisse dessus, il est fait pour être vécu. Et je rends grâce à Dieu pour le mouvement des assemblées de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi? Parce que c'est le mouvement où on a cherché le plus à vivre la réalité complète de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans le mouvement des assemblées de Dieu, on s'est posé peu de questions et on a eu raison. Sur l'essence de Dieu. Donc, Dieu c'est trois en un, mais c'est l'unité lui. Il est l'unité. Est-ce que quelqu'un a vu Dieu sur terre? Qui lève la main? Vous avez raison. Personne n'a jamais vu Dieu, d'ailleurs la parole nous le dit. Même Moïse a failli voir Dieu. Et Dieu est passé d'une façon telle, pour que Moïse ne le voie pas, il aurait été détruit instantanément. Alors, l'unité n'est pas visible. Alors, on est déçu. Oh, ça aurait été tellement beau, si on avait pu voir l'unité. Mes chers amis, là encore, on voit à l'envers. Nos regards sont en ce moment tournés vers l'origine. Alors que la dynamique, c'est-à-dire la force qui nous pousse dans la Bible, lorsque l'on accueille Christ, qui est la parole de Dieu, une force nous pousse, et entre parenthèses, entre autres, cette force nous oriente à regarder non pas au début, mais à la fin. Supposez que vous observiez un artiste au travail, un sculpteur, un peintre, en train de peindre. Le tableau est à moitié fait. Votre réaction immédiate, c'est pas de vous interroger, mais comment est-ce qu'il a démarré? Quel pinceau il a pris? Par quelle couleur il a commencé? Sont rares les gens qui font ça. votre réflexe, qu'est-ce qu'il veut bien représenter? Où est-ce que ça va aboutir? Mais c'est en nous, cela. Alors pourquoi, avec la parole, on se penche sur nos origines en oubliant la finalité? Là encore, c'est le 2, là. Origine, s'il y a origine, il y a une fin. On appelle ça finalité, ça fait peut-être un peu plus savant, mais la finalité, c'est l'aboutissement de tout. En ce moment, tout est en mouvement. Personne n'a remonté le temps. Le temps est, si vous voulez, la grandeur qui sans cesse nous rappelle que c'est irréversible, que tout nous pousse en avant, ou les gens disent vers le néant, d'autres disent vers une société meilleure qui ne vient jamais. Mais nous, nous savons, comme nous l'avons découvert ce matin, peut-être pour certains, tout nous pousse vers un mariage. Dieu réunira toutes choses à lui en Christ aux noces de l'agneau. C'est le thème qu'il donne. Donc, réunir toutes choses, n'est-ce pas réaliser l'unité? Comme le disait le pasteur Brion, ou c'est l'autre, peut-être. Je ne me rappelle jamais, mais ils ont dit des choses très brillantes. Ils ont dit, l'unité, ce n'est pas seulement une assemblée, c'est une communauté de pensée, c'est une communauté de cœur, c'est une fusion totale. L'unité, c'est ça. Donc le mariage, c'est une unité. C'est deux qui deviennent un au niveau de l'homme et de la femme. Et encore, nous sommes, ma femme n'est pas en moi et moi en elle, on nous voit distinctement. On vit une unité sur un autre plan. Mais le mariage sera une unité complète avec Dieu. Nous reviendrons souvent là-dessus parce que toute la création sera marquée. Il y aura une marque de fabrique, en quelque sorte, quelque chose qui sera laissé dans la création pour préparer cette unité. L'unité, certes, elle n'est pas au début. La Bible commence par deux et pas par un. Mais elle n'est pas au début parce qu'elle est pour la fin. C'est ça qu'il faut se rappeler. Voilà la glorieuse vision, la première que nous offre, la première lettre de l'alphabet, de la Bible. Je ne dis même pas le premier chapitre, je ne dis même pas le premier verset, je ne dis même pas le premier mot, je dis la première lettre de toute la Bible, c'est déjà l'image d'une réunion. Pourquoi deux? Parce que deux va amener un à la fin des temps. On n'a pas trouvé ça. Est-ce que quelqu'un a phosphoré pour trouver ça? Personne. On n'aurait pas pu trouver. Comment se fait-il que les rabbins l'aient trouvé? Je vous l'ai dit, le peuple d'Israël a été conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible est venue de textes anciens, d'autres, etc. Mais la première fois que Dieu a parlé, c'était au sein du peuple d'Israël. Donc c'est Israël qui sera le dépositaire au niveau de milliers d'années de méditation. À travers ces petites écoles, il y avait 20-30 élèves maximum. Là, il y a de quoi faire une dizaine d'écoles rabbiniques ici, vous voyez. Où ils avaient le temps de se voir entre eux, de réfléchir, de prier, etc. Et à lire les récits appuyés sur la Bible, c'est la Bible qu'ils méditaient, sont venues ces réflexions que je vous livre. N'est-ce pas conforme à l'esprit de la parole, ce que je vous dis? Relisez la Bible de couverture à couverture, vous allez trouver cette trace, invisible par moments, plus visible à d'autres, qui sans arrêt vous montre que tout est appelé vers une unité. On le retrouve au niveau des lettres de Paul. On le retrouve au niveau, par exemple, de la lettre de Paul aux Éphésiens. Si vous avez le temps, vous lirez le premier chapitre des Éphésiens. Partout, on retrouve sans arrêt. On le retrouve dans la personne de Christ. Car cette unité va se faire autour de Christ et en Christ, qui, lorsqu'il aura soumis toute chose à son Père, se réunira à son Père. Et Dieu sera enfin Dieu, dit Paul d'une façon très mystérieuse dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais deux vont devenir un. Voilà. Maintenant, suit l'autre mot. Vous voyez, déjà, ils vous disent, votre univers, vous le découvrirez en recto verso. Mais ce recto verso, il n'a pas de sens en soi. C'est pas recto verso parce que Dieu a pensé c'est mieux deux que trois. C'est parce que deux vont devenir un. Ça vous rappelle rien, ça? C'est pas le thème d'un mariage? Déjà, dans la première lettre de toute la Bible, le thème d'un mariage, deux qui deviennent un à la fin des temps. Voyez ce que c'est d'approfondir la parole? Regardez tout le poids déjà de tous les livres de la Bible qui sont contenus rien que dans la première lettre de toute la Bible. Maintenant vient le mot « réchit ». Réchit, littéralement en hébreu, veut dire par un principe et pour un principe. Par un principe et pour un principe. Nous sommes en train de céder à la tentation de réfléchir. Nous réfléchissons et résultat de nos réflexions, silence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mauvais pas à faire de réfléchir d'abord. Pour entrer davantage dans la connaissance de ce que ça veut dire, au-delà de comprendre, pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire, il faut en quelque sorte recevoir d'autres échos. Vous voyez? Un peu comme si je vous jouais une musique, je prenne une note sur cinq et je laisse les autres silencieuses. Ben, ça demanderait du temps avant que quelqu'un reconnaisse l'air que je joue. Mais si je vous envoie une par une toutes les autres notes, les mains vont vite se lever, ça y est, j'ai reconnu l'air. C'est ça la Bible. La première fois que je lis par un principe et pour un principe, c'est une note parmi des milliers peut-être, une seule. Vite cherchons d'autres échos. Prenons-le. Ouvrez votre Bible, l'écho, on l'a, un écho très fort. Il n'y aura peut-être pas besoin d'autres, mais on pourra en trouver d'autres. Seulement le temps nous manquerait, on pourrait rester là jusqu'à minuit. Colossiens. Prenez le chapitre premier des Colossiens et nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Un passage bien connu. Mais lisons-le lentement, non plus comme un passage que nous allons essayer de comprendre. Survolons les mots, restons à l'écoute, recevons-nous un écho. Qu'est-ce que ça fait vibrer à l'intérieur de nous, les versets 12 à 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je passe vite quand l'écho arrive. Et quand l'écho est juste dessus, je ralentis. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Entre parenthèses, ces mots, si nous étudions un autre thème, auraient des échos là aussi, je ralentirais sur un autre thème. Mais le thème qui nous préoccupe en ce moment, l'écho recherché, nous allons ralentir à ce moment-là. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de Christ, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout. Le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. J'ai ralenti pour vous aider au passage de l'écho. Réchit par un principe et pour un principe. Qui est le principe? C'est Christ. Le premier mot de la Bible, au commencement de, parle déjà de Jésus-Christ. C'est normal. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement alors que Paul, qui est aussi en harmonie avec le restant de la parole, lorsqu'il parle, comme il parle dans la lettre à l'église de Colosse, il faut bien qu'il soit en accord avec la Bible du commencement à la fin. Vous voyez, c'est ça qui fait la richesse de la Bible. Et c'est notre façon de la disséquer en petits bouts qui nous a fait perdre cette dimension extraordinaire de la Bible. Chaque mot de la parole trouve son écho dans tous les autres mots. Et tous les autres mots résonnent entre eux. Résonnent dans le sens de, pas résonner, mais la résonance. C'est-à-dire, il y a un écho partout. Tous les mots se renvoient un écho et l'ensemble fournit une symphonie extraordinaire. Chaque mot dans la Bible a une place. Si je retire un mot de la Bible, il manque quelque chose. C'est certes, c'est certain, mais elle n'est plus ce qu'elle était. Et d'ailleurs, ce que nous sommes nous en montre l'exemple. Vous savez que nous sommes faits de cellules. Vous savez, il y a un noyau, etc. Vous avez étudié ça en sciences naturelles. Plein de cellules. Les cellules nerveuses qui sont très longues, musculaires aussi. Les cellules de la peau qui sont plutôt rondes, hexagonales, etc. Les cellules du sang qui sont toutes rondes. Les cellules partout. l'homme veut étudier le corps humain. Entre autres, la cytologie, c'est la science de l'étude des cellules. Elle va prendre une cellule et déjà elle est obligée de la mettre dans un milieu qui ne la tue pas. Parce que retirer une cellule, elle ne vit plus. Il faut la maintenir en vie, vie biologique. Donc la cellule sera mise dans un milieu qui maintienne sa vie. À ce moment-là, elle regarde au microscope, il étudie. Mais combien savent-ils que lorsqu'ils étudient la cellule ainsi, même si elle est vivante, elle n'est plus dans le milieu où était le corps. Elle n'est plus la cellule. C'est fini. C'est ça le drame de la science. Pour étudier, on est obligé de détacher les choses. Et en les détachant, on détruit un équilibre et on n'étudie plus la chose que l'on veut étudier. C'est ça le drame de la science. C'est un des grands points d'interrogation de la science moderne des 10 dernières années. Je vous parlerai un jour de la révolution qui se produit en science. Je crois que j'en parlerai dans la deuxième session. Une révolution fantastique qui est en train de se produire au niveau de la science fondamentale de la physique. Et qui fait un écho formidable à la parole de Dieu. Vous l'auriez jamais cru ça. Et on en arrive là. Alors, la cellule retirée n'est plus la cellule, et le corps n'est plus le corps, au certes de pas grand-chose de différence. Il manque une cellule, c'est pas grand-chose. On en fabrique des milliers par jour. Et des milliers qui meurent aussi. Mais, si je retire une cellule délibérément, mon corps n'est plus le corps. Eh bien, la Bible, c'est pareil. Je retire un mot, ce n'est plus la Bible. Et le mot, une fois que je l'ai retiré, que je l'examine tout seul, sans chercher l'écho ailleurs, eh bien, ce n'est plus le mot tel que Dieu l'a mis dans la parole. Vous voyez comme c'est important d'avoir toute la Bible en vue. Intellectuellement, c'est impossible. Parce que ça reviendrait à dire ceci. Si j'étudie un mot, il faut que je relise la Bible de A à Z. À chaque fois que je lis un mot, il faut que je relise toute la Bible. Alors, vous rendez compte, si je lis une phrase de 10 mots, il faut que je relise 10 fois la Bible. Mais c'est ça, à la limite. Donc, vous voyez, intellectuellement, il y a une limite. La Bible n'est pas faite pour être d'abord écoutée intellectuellement. Il faut aller plus loin. Ensuite, je n'ai pas détruit l'intellect, c'est un don de Dieu. Ensuite, l'intellect est nourri. Mais cette fois-ci, au lieu d'être nourri au niveau d'un effort de compréhension, il est nourri par l'intérieur, par une lumière que l'on reçoit, puissante, et qui donne un sens à tout ce que l'on lit. Alors certains seront capables de l'exposer, d'autres le seront moins. Ça, c'est l'affaire de Dieu, ça. Il a créé certains doués pour l'exposition de la parole, d'autres moins. C'est ça, le ministère de prédication. Mais ça ne veut pas dire que si je ne suis pas capable de l'exposer, je n'ai rien su. Je peux être extrêmement enrichi sans jamais être capable de l'exprimer. Ça, c'est une parenthèse importante. Donc, le temps passe, mais le verset est court, ça va. Quand on va faire la troisième, de 6 à 31, il faudrait que je ralentisse davantage. Mais on va courir plus vite, là. Là, c'est important qu'on démarre très lentement. D'ailleurs, tout démarre lentement dans l'univers. Vous avez vu une voiture partir et faire 100 km à l'heure à la première seconde? Ça s'est jamais vu. Elle démarre très lentement. Peut-être c'est comprimé dans un temps très court, mais il faut qu'elle accélère. Eh bien, ce premier verset, c'est le résumé de toute la Bible telle que nous la connaissons et qui projette, parce que c'est la parole de Dieu, pas seulement ce qui s'est passé au début, mais surtout la fin. Car, si je reprends l'exemple de mon artiste qui travaille, les touches de couleurs qu'il est en train d'ajouter seconde après seconde avec une telle dextérité que j'en reste baba d'admiration, ça n'a pas de sens s'il n'avait pas en vue une œuvre finale. Il ne travaille pas au hasard, l'artiste. Oh, je sais, dans les formes de la peinture moderne, on prend une cuillère, une godasse et on jette de la peinture et on regarde ce que ça fait, après on part au point suivant. Je parle des artistes. Voilà, une fois pour toutes. Je parle de la vraie peinture. Tout artiste travaille. Le compositeur qui jette. Si une télévision avait pu filmer Jean-Sébastien Bach, dont c'était le tricentenaire l'année dernière, c'est ça, tricentenaire, eh bien, on aurait pu voir Jean-Sébastien Bach mettre des petits points sur des lignes parallèles, ce qu'on appelle une portée. Mais il ne jetait pas des points comme ça. Moi, je suis capable de jeter des points, mais si ça s'est joué à l'orchestre, quelle cacophonie. Lui a un thème dans l'esprit. Dieu est le compositeur. Bach était un compositeur. Et il jette ses notes parce qu'il a une finalité en vue. Il a l'œuvre qu'il va produire en vue. Eh bien, Dieu opère de la même façon. Lorsque le monde commence à apparaître, il a déjà en vue ce pourquoi il crée le monde. Alors, il jette donc ses notes. Et nous avons vu qu'il le fait pas n'importe comment, il le fait par un principe, il est guidé par un principe qui est Christ. Et il le fait pour une œuvre finale qui est Christ. Là, vous commencez à tiquer. Ouais, je veux bien Christ, je vois le parallèle entre principe et Christ, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans une composition musicale, à une portée. Personne ne jette des points en l'air comme ça, ça ressemble à un vol de mouche, mais certainement pas une écriture musicale. Le peintre travaille sur un cadre. Bon, d'accord, il y a un cadre, un pinceau, de la peinture, mais il a en vue quelque chose. Et au fur et à mesure qu'il ajoute les choses, il le fait donc dans cette vue-là. Il le fait en vision de quelque chose et en fonction de, par ce principe, par et pour sont intimement liés. Christ est le thème de l'univers. Comprendre cela, c'est impossible. Allez expliquer à un paléontologue, un physicien, à un astrophysicien, que Christ est le principe de l'univers, il va vous rire au nez. Il va intellectualiser ça, il va rien comprendre, il va dire, allez, va te promener, ne reviens pas avec des phrases comme ça, c'est l'asile la prochaine fois. Et pourtant, c'est ça la réalité. Vous voyez comment un langage peut déformer la chose. Par contre, si cet astrophysicien avait eu l'écho, et nous verrons en deuxième session qu'est-ce que c'est qu'avoir l'écho, s'il avait pu avoir l'écho de ce que vous venez de lui dire, il aurait vibré, il aurait sauté en l'air, il aurait dit « Alléluia, merci Seigneur ». C'est arrivé avec des astrophysiciens chrétiens. Merci Seigneur, parce que ce monde des étoiles que j'observe, c'est le monde visible, mais je sais que derrière, en doublure, il y a un monde invisible, et que l'ensemble visible-invisible, c'est ça, l'autre doublure, les cieux, la terre, visible-invisible, c'est ça. Derrière cela, c'est Christ. Je ne pourrais pas trouver Christ dans le fond de mon éprouvette. German Titov, cosmonaute soviétique, est revenu de son voyage dans l'espace après Gagarine et a dit « Je n'ai pas vu Dieu là-haut, pauvre vieux, il s'était trompé de lunettes ». C'est la lunette du cœur qu'il avait oubliée, mais la sienne n'était pas vivante. Alors c'est pas étonnant. Christ est le principe de l'univers. Tout était fait par lui et en lui. Et pourquoi? Parce que tout sera réuni à lui. Pour ces noces de l'agneau, ce sera ça le mariage. Et enfin, l'éternité commencera. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Peut-être nous aurons le temps de revenir sur cet aspect nouveaux cieux, nouvelle terre. Mais voilà le thème de la création. Bereshit. Vous voyez, simplement au commencement de. Au commencement de quoi? Au commencement d'une œuvre qui va aboutir à ce mariage. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, la suite est très simple, elle est réglée en quelques minutes. Dieu créa cieux et terre. Voilà comment, il n'y a pas d'article en hébreu. Cieux et terre, c'est indissociable. Ça n'a rien à voir avec l'azur sur la tête et notre bonne vieille planète qu'on est en train gentiment de détruire à coup de pollution industrielle, et de catastrophes genre Tchernobyl, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça va beaucoup plus loin. La terre, c'est le monde de ce que je peux voir, qui est ma terre à moi, qui est moi-même, qui est les étoiles, qui est aussi ce que je peux ressentir, mes émotions, tout ce qui arrive à ma perception, tout ce qui me rend conscient que je suis. Non seulement ce que je vois des autres et de moi-même, mais ce que je ressens, etc. Tout ça, c'est la terre. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin que la planète. C'est le monde du visible, du percevable. Les cieux, recto verso, nous sommes toujours sous le chiffre 2, c'est le monde de l'invisible. Ce passage de Colossiens a bien montré les choses qui sont sur la terre et au-dessus. Le monde invisible, ils utilisent une dimension là et au-dessus pour frapper l'imagination, mais ça va au-delà. Les mots n'ont pas de fin en soi. Ils catapultent au milieu de notre cœur la pensée de Dieu, au-delà de ce que le mot grammaticalement ou Larousse veut dire. Ils catapultent cette réalité. Le monde de l'invisible, nous en connaissons certains aspects, le monde des esprits, le monde des anges, toutes sortes de choses qu'on ne peut pas sentir, sauf lorsqu'ils viennent au niveau de notre entendement. Des anges se matérialiseront lorsqu'Abraham sera visité par un ange, lorsqu'un ange viendra réconforter, lorsqu'un ange viendra dans le combat avec Jacob, etc. Mais ce sont des réalités invisibles. Donc le monde du visible et de l'invisible, recto verso, apparaît en fonction de Christ et pour Christ. Mais il est créé, et j'arrêterai là-dessus. Le mot créé a fait couler beaucoup d'encre, qui aurait pu être économisée entre nous, parce qu'il y a eu un débat inutile. On vous dit créer, c'est faire sortir les choses du néant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui est invisible. Supposez qu'ici, vous avez tous vu un peu de science-fiction, il y a à côté de moi un monsieur invisible et que j'ai à ma disposition un liquide qui, si je jette sur lui, le rend petit à petit visible. Eh bien, pour vous, cet homme n'a de réalité qu'à partir du moment où vous le voyez, tant que vous ne l'aviez pas vu, pour vous, c'était rien, il n'y avait rien là. Mais moi, je savais qu'il était là. Seulement, il a fallu que je fasse la transition de l'invisible au visible. Vous êtes entouré d'ondes radio. Mais ça fait longtemps que l'homme est entouré d'ondes radio. À chaque fois, hier, vous avez entendu cette nuit un orage? Vous savez qu'à chaque fois que ça fait boum-boum, c'est une onde sonore, mais il y a d'autres ondes qui sont émises quand un éclair passe. Il y a des ondes radio. Et depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des éclairs. Un tas d'ondes radio étaient émises, mais il a fallu attendre. Il y a 2 siècles que des gens comme Hertz, Marconi et d'autres parlent des ondes et petit à petit les canalisent aujourd'hui dans votre poste de radio et que vous entendiez une émission. Nous pouvons être ceux qui réfléchissent dans le sens de miroir vers le monde, non pas tellement des réponses, c'est pas un catalogue de réponses la Bible. Elle a suffisamment de puissance pour que lorsque vous l'exposez à d'autres, montrez un peu ce que je vous ai dit en 2-3 phrases là, à l'instant, pour qu'automatiquement dans le cœur de l'homme quelque chose qui se mette à vibrer. Parce que comme nous allons le voir dans la 2e session, l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il a en lui un écho quelque part enterré, et que si une force, la force de l'esprit, pas vos paroles, vient de faire vibrer cet écho, il a beau être anti-Dieu, anti-tout, d'un seul coup il se met à vibrer, et vous allez peut-être voir un pécheur repenti dans les minutes qui suivent. C'est ça la force de la parole de Dieu. Mais pour que cela soit vrai, il faut créer. Dieu crée. Pourquoi crée-t-il? Parce qu'il veut exprimer son amour. Un compositeur, pourquoi est-ce qu'il écrit une composition? Un artiste peintre, pourquoi est-ce qu'il se met à travailler? Il veut exprimer quelque chose de sa nature, de comment il ressent l'univers autour de lui. Dieu veut exprimer son amour. Le thème, c'est Christ pour une réunion, mais l'air de cette symphonie, c'est l'amour de Dieu. Il le fait par amour. Il veut exprimer son amour. Oh, ça soulève des questions. Et les enfants qui meurent innocemment, et les tremblements de terre qui engloutissent des gens, qui n'y sont pour rien, etc. C'est ça l'amour de Dieu, nous jette le monde à la figure. Il faudra savoir répondre à cette question. On le verra, elle viendra peut-être dans le cours de débat. Mais l'heure est passée, j'arrête là-dessus. Dieu crée pour exprimer son amour. En quoi notre vie quotidienne est-elle influencée par la connaissance du sens de la création? Ça sera l'objet de notre débat. Je vous donne en une phrase la réponse qui appelle votre écho, votre interpellation au niveau de votre problème de tous les jours. Savoir que tout a un sens nous met sur un plan complètement différent. La grande maladie de tous les siècles, et pas seulement du 20e, c'est que l'homme ne sait pas où il va. Et qu'à la limite, à force de ne pas savoir, sort des philosophies négatives dans le genre de celle qui dit « Nous venons du néant pour y retourner. Notre seule façon de vivre, c'est de jouir au maximum. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Voilà. Voilà ce que c'est de perdre le sens. Mais retrouver le sens change complètement votre existence. Savoir que tout, seulement, pas seulement dans la création, tire, est aspiré vers, mais tout ce que je fais, que les paroles que je vais prononcer, les pensées que je vais avoir, les actes que je vais faire, doivent être en harmonie avec ce thème. Mais c'est important, ça pose la question de savoir comment est-ce que je sais que je suis hors harmonie, comment je fais pour y revenir. Ça, vous voyez toutes les questions que ça soulève. Mais il est extrêmement important de connaître le sens de la création, pas seulement de le connaître cérébralement, l'enfermer dans une formule, mais de le vivre tous les jours. Car l'homme, et nous le verrons demain, a été créé pour vivre en harmonie avec Dieu. C'est là qu'il est à son maximum. De se mettre à côté, de perdre le sens des choses, c'est dériver sans but. C'est gaspiller son intelligence, sa puissance intellectuelle, technologique et autres, pour détruire finalement ce que l'homme veut construire. Et à la limite, pour se détruire lui-même. Revenir en harmonie, c'est retrouver le sens de la création. Pas forcément devenir un grand savant ou un homme politique, mais vivre dans son milieu, dans sa famille, là où Dieu nous place, et apporter quelque chose de l'écho. C'est pas nous qui l'apportons, nous sommes que les transmetteurs. Et Dieu, à travers nous, apporte au monde qui nous entoure un sens aux choses, un peu le sel, c'est ça. Les gens, à nous voir vivre, découvrent. Oh, cet homme-là a découvert un secret. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il n'est pas comme les autres. Cette femme-là vit sur un autre diapason. Quel est son secret? Elle a l'air d'être reliée à un courant souterrain qui, même si la mort survient, semble qu'il sera maintenu dans ce courant. Voilà les questions. Pourquoi l'homme, le monde se pose ces questions? Mais parce qu'il a été créé pour Dieu. Il a été créé pour Dieu. Et quand l'Esprit parle comme ça, lorsqu'il fait vibrer l'intérieur, notre témoignage aura réussi. Quelquefois, un témoignage sans parole. Voilà l'importance de connaître le sens de la création. On aurait pu dire beaucoup plus, mais j'arrête là-dessus. À vous la parole maintenant. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui viennent? Je laisse la place au président de séance. On va faire ça.
Est-ce que tu veux t'asseoir?
Oui, je vais prendre une chaise, je vais m'asseoir là.
Voilà, on va faire donc en deuxième partie un moment de partage questions-réponses.